Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe.
La belle langue de mon pays, la belle langue de mon pays, hein, cette langue française qui s'est bâtie à travers les siècles et qui est parlée par près d'un milliard de personnes dans le monde aujourd'hui. Ça s'appelle la francophonie et cette belle langue est très menacée, hein, on le sait, à l'intérieur même de notre pays, la France. Et en attendant, en revanche, nous parlons de quelque chose qui est très important, qui commence demain, la 26e édition de la semaine de la langue française et de la francophonie, qui va durer jusqu'au 21 mars. Donc, des initiatives, comme vous le savez, du ministère de la Culture. Elle a vocation de célébrer la langue de Molière, celle de Césaire, celle de Senghor, celle de tellement d'écrivains, de philosophes à travers le monde. Eh bien, on va parler avec Céline Alonso et avec nos invités de cette francophonie si nécessaire.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
C'est une barmaid qu'est ma darling. Mais in the bed, c'est mon travelling. Mon best-seller et mon planning. C'est mon starter after shaving. J'suis son parking, son one-man show.
Évidemment, vous l'avez reconnu, Léo Ferré qui a fait cette chanson formidable il y a déjà des décennies pour l'influence et la pénétration du franglais, justement. Hein. Et ça date pas d'hier, le franglais. Il a fait cette merveilleuse chanson. Et moi, je cause français, c'est un plaisir. Et voilà, en fait, où en est cette francophonie? Où en est-on? Où en est-on dans l'époque de grandeur, ou en est-on en époque de décadence, Céline?
Et oui, ben je ne pense pas qu'on puisse dire que la francophonie est aujourd'hui une cause perdue, André Bercoff. Et pour en parler, bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ilyes Zouari, qui est chercheur et surtout président et cofondateur du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Alors bonjour à vous, Ilyes.
Bonjour, Madame Alonso.
Bonjour, enchanté. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur Sud Radio. Alors le monde francophone aujourd'hui, c'est en fait combien de pays, combien de territoires et combien d'habitants?
Oui, surtout quand on a parlé du milliard et des 900 millions, alors peut-être qu'il faudrait préciser, justement.
Alors en fait, le monde francophone, c'est-à-dire l'ensemble, c'est l'ensemble des territoires et des pays dans le monde dans lesquels on peut vivre en français, tout simplement. Le français étant la langue d'administration, des affaires, de l'éducation, des médias ou la langue maternelle, seule ou avec d'autres langues. Voilà. Donc au total, c'est 29 pays qui l'ont pour langue officielle, plus 4 pays dans lesquels il n'a pas de statut de langue officielle, mais dans lesquels il a le statut de langue privilégiée, étrangère privilégiée, donc appris en premier de manière obligatoire par tous les élèves du pays et massivement utilisé dans les médias, dans l'administration.
Donc 33 pays, vous diriez.
Donc au total, 33 pays, voilà. D'accord. Donc 4 du Maghreb et la Mauritanie. Voilà. Et si on prend cette définition donc stricte du monde francophone, c'est-à-dire uniquement les territoires et les pays où l'on peut vivre en français, c'est-à-dire sans tenir compte des parties non francophones, par exemple de la Belgique ou du Canada, par exemple, ou encore de la Suisse, eh bien, au total, ça nous fait un espace de 16,3 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près 4 fois autant que toute l'Union européenne, tout entière, et ça fait une population de 524 millions d'habitants. 524 millions d'habitants, estimation au 1er janvier 2021, c'est l'espace le plus dynamique au monde, une croissance de 2,2-2,3% par an à peu près. Et c'est un espace qui, en 1950, comptait 128 millions d'habitants, pour information.
Ah oui.
Il a quadruplé entre-temps. Voilà.
Alors, comment vous expliquez aujourd'hui cette progression incroyable?
Cette progression donc, démographique du monde francophone, qui a été très importante, notamment avec la montée en puissance de l'Afrique francophone, et en particulier maintenant de l'Afrique subsaharienne francophone, ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que, par exemple, 8 des 10 premières capitales francophones du monde sont africaines. Et Kinshasa est la première, avec 14,6 millions d'habitants, loin maintenant devant Paris. 11,
Kinshasa 1. Est la première aujourd'hui première capitale francophone.
Tout à fait, du monde.
Devant Paris, donc.
Exactement. Ouais. Et l'écart ne cesse de s'agrandir d'année en année. Voilà. Et c'est une démographie qui est favorable à l'espace francophone en Afrique, mais également parfois ailleurs également. Par exemple, Haïti vient de redevenir l'année dernière, en 2020, le pays le plus peuplé de la Caraïbe, 2 siècles après avoir perdu cette place au profit de Cuba. Ouais, deux siècles, par exemple. Voilà. Même s'il est regrettable en ce qui concerne Haïti que le dynamisme économique ne suive pas, contrairement à l'Afrique francophone qui, elle, est beaucoup plus dynamique.
Est-ce que fait de la francophonie, la population, je veux dire, une des plus importantes du monde ?
Tout à fait. Alors maintenant, ça dépend encore une fois des critères qui sont utilisés.
Voilà. Selon
donc
vos
parfois,
critères,
tout à fait. Alors ouais. si on parle de la francophonie, c'est-à-dire l'ensemble des. Si on veut avoir une idée de l'importance réelle du français dans le monde, il faut voir l'ensemble des personnes dans le monde qui ont une maîtrise assez bonne du français, et où les personnes qui sont amenées à l'utiliser au quotidien, d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers, et même s'ils ne le maîtrisent pas parfaitement. À ce moment-là, il faut compter la population du monde francophone, puisque dans les pays francophones, même dans les zones reculées, en Afrique, qui ne parlent pas bien français, tout le monde est en contact quotidien, pour l'administration, les factures, actes de naissance, les médias, la télévision. Et on peut, donc là c'est 524, et à ce chiffre, on peut rajouter quelques dizaines de millions de personnes ailleurs, qui ont une bonne connaissance du français. Par exemple, l'OIF considère qu'il y a à peu près 10 millions de personnes que l'on peut considérer comme francophones en Allemagne, en Italie, en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc au total, il y a 600 millions de personnes à peu près. Mais si on rajoute à cela tous ceux à travers le monde qui ont au moins des notions, c'est même des connaissances très basiques en français, qui l'ont appris à l'école, mais qui ont par exemple oublié une bonne partie, on arrive à peu près à 900 millions. Je prends l'exemple de l'Italie, par exemple.
Donc on n'est pas loin du milliard.
Voilà, je prends juste un exemple de l'Italie pour que les gens comprennent bien. En Italie, on a 70% d'une classe d'âge qui apprennent le français. C'est un chiffre stable depuis plusieurs années.
Aujourd'hui encore.
Aujourd'hui encore, essentiellement au premier cycle de l'enseignement supérieur, non, de l'enseignement secondaire. Voilà. Et donc, lorsque vous avez 70% d'une classe d'âge depuis des années qui apprennent le français, même si beaucoup d'entre eux vont l'oublier, vous avez bien plus que 10 millions d'Italiens qui sont capables au moins de baragouiner entre guillemets le français. Voilà. Donc le chiffre de 300 millions que l'on voit souvent de l'OIF, là, ne concerne que les personnes qui ont une bonne maîtrise, une assez bonne maîtrise du français.
D'accord.
Donc ça fait, avec ce chiffre-là, on ne compte pas les centaines de millions de personnes, notamment en Afrique, qui ne le maîtrisent pas très bien, mais qui sont en contact quotidien avec lui et qui l'utilisent même de différentes manières. Voilà. D'un point de vue économique, géopolitique, ça ne correspond à aucune réalité. D'un point de vue de marché, d'un point de vue géopolitique, ça ne correspond à aucune réalité. Et même donc d'un point de vue social également. Donc c'est un chiffre qui est très dévalorisant, qui amoindrit la valeur de l'espace francophone, donc son importance aux yeux de nos compatriotes, et qui induit en erreur beaucoup de personnes, notamment des acteurs décideurs économiques et politiques.
Et
voilà, j'avais d'ailleurs lu, il y a 2 ans, un rapport publié par France Invest, qui est un organisme public et non des moindres, qui produit des rapports à destination des grands décideurs économiques du pays, de France et même d'ailleurs, et dans lequel était écrit noir sur blanc, dans un long rapport consacré à l'économie africaine, l'Afrique francophone, je précise, du Maroc jusqu'à Madagascar, donc il s'agissait vraiment de toute l'Afrique francophone, c'est 250 ou 260 millions d'habitants, et non pas de locuteurs ayant une bonne maîtrise. Donc voilà encore une confusion, d'une grave erreur qui a été commise par un organisme qui n'est pas des moindres.
Alors comment vous expliquez, on parlait du dynamisme économique, effectivement, de l'Afrique francophone subsaharienne, à quoi est dû ce dynamisme ?
Alors l'Afrique francophone subsaharienne, alors depuis un certain nombre d'années, je dirais même depuis le début des années 2000, a entrepris de grandes réformes économiques. En tout cas, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne francophone, qu'on le veuille ou non. Parfois, on pourra toujours nous citer 2 ou 3 exemples qui font exception, mais globalement, la plupart des pays ont fait de grandes réformes en matière de bonne gouvernance, de diversification. Et c'est ce qui permet donc à de nombreux pays francophones d'Afrique d'avoir des taux de croissance très importants et de manière constante. Ce n'est pas seulement pendant 3 ou 4 ans pour ensuite avoir une économie qui s'effondre, non. Quand un pays réussit à le faire de manière constante, ça veut dire qu'il a eu un véritable travail de réforme derrière. Mmh. Voilà. Et donc l'Afrique francophone aujourd'hui, les 22, si on prend l'Afrique subsaharienne, 22 pays d'Afrique subsaharienne francophone, sur la période 2012-2020, sur les 8 dernières années, même en tenant compte de la pandémie, on a un taux de croissance annuel global du PIB, qui est de 3,5%, et même de 4% si on exclut le cas très particulier de la Guinée équatoriale. Voilà, tout ce qui est après tout normal.
Oui,
Par contre, 1,9% seulement pour le reste de l'Afrique subsaharienne non francophone. Donc on voit bien un écart considérable. Et si on prend la période pré-pandémie 2012-2019, cette année, là aussi c'est une période assez longue pour pouvoir faire des comparaisons, voilà, on est sur du 4,2 contre 2,8. Donc là aussi un écart considérable.
Et cette croissance est aussi soutenue, vous l'exprimez clairement, par la maîtrise totale de la dette publique aussi, c'est ça?
Non, maîtrise totale, bon, la dette publique par définition, qu'elle soit faible ou non, c'est toujours un petit problème. Ouais. Sauf si elle est à des niveaux vraiment très très faibles, peut-être de 10 ou 20%, qui arrivent pour quelques rares pays dans le monde. Mais globalement, et contrairement là aussi à ce que certains disent, l'Afrique francophone est clairement la partie la moins endettée du continent. Elle était déjà avant la pandémie, elle l'est encore plus maintenant après la pandémie, puisque maintenant, en fin 2020, d'après le FMI, d'après les statistiques que nous avons produites, on est à 47-48% pour l'Afrique francophone subsaharienne, contre 64%. Pour l'Afrique subsaharienne non francophone.
Oui, mais Elias Zouhari, ça c'est très bien, ce sont des chiffres intéressants et je dirais encourageants en principe. Mais en pratique, est-ce qu'on n'est pas déjà, je dirais, la France, la francophonie, alors c'est très bien sur ce plan-là, mais sur le plan économique, pour rester, est-ce qu'on n'est pas déjà supplanté, je dirais, par les Chinois? Est-ce que, je veux dire, toute cette Afrique francophone regarde vraiment vers la France encore? Je parle sur un plan économique et autre, je ne parle pas sur un plan éducationnel. Où est-ce que la France-Afrique est une espèce de vieux rêve terminé et on est déjà dans les nouveaux empires? Alors là, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on est, pour être très, très brutal, est-ce qu'on est dans un gadget avec la francophonie ou ça a encore une force économique planétaire importante?
Ça devrait avoir une force économique, en tout cas une place plus importante dans la politique étrangère de la France et par conséquent une place plus importante dans le conseil international tout court. Voilà, mais malheureusement, la France ne s'intéresse pas assez à l'Afrique francophone depuis de nombreuses années, contrairement à ce que l'on pense. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer à plus d'une reprise, l'Afrique francophone, par exemple, le monde francophone globalement, donc y compris Haïti, par exemple, ne reçoit chaque année que 15 à 20% seulement des aides françaises au développement, des aides publiques françaises au développement.
Elles sont davantage accordées
à l'espace européen, sauf que là, il y a une petite manière un petit peu de fausser les chiffres, puisque on définit les aides publiques au développement comme étant les aides publiques françaises au développement versées à des pays non européens. Oui. Voilà, ou à revenus intermédiaires ou faibles. Donc, alors qu'en réalité, les aides publiques, les aides par milliards d'euros que nous versons chaque année aux pays d'Europe, d'Union européenne, principalement en Europe de l'Est, c'est bien des aides publiques qui servent au développement de ces pays pour leur permettre un rattrapage économique.
Et l'Afrique, c'est 15-20%.
Voilà, et qui en plus sont données aux pays européens dans des conditions bien plus favorables que le reste du monde francophone, puisque c'est en intégralité des dons et qui, en plus, ne sont assortis d'aucune condition.
Donc, ce que vous dites, Elias Zouhari, c'est qu'en fait, la France, en tant que politique, et c'est pas d'hier, hein, on ne parle pas de tel ou tel gouvernement de droite ou de gauche, s'intéresse pas tellement à l'espace francophone, s'intéresse pas comme il le faudrait.
Il y a, depuis une vingtaine d'années, une certaine dérive en la matière, effectivement, puisque la France s'est largement désintéressée, depuis deux décennies, du monde francophone. Pour diverses raisons. Je pense qu'il y a un tropisme européen et anglo-saxon qui atteint des proportions assez graves aujourd'hui. N'oublions pas que la France est une grande puissance mondiale. C'est probablement, comme je l'ai dit plus d'une fois, si l'on tient compte de tous les critères de puissance.
Oui, non.
On compare jamais deux élèves d'une classe sur une seule des matières étudiées, mais sur l'ensemble des matières. Mmh. Donc, si on compare les pays selon tous les critères de puissance économique, politique, armée, culture, diplomatie, ainsi de suite, ou espace maritime, la France est probablement la deuxième puissance mondiale après les États-Unis. Donc la France est une grande puissance mondiale, et c'est une puissance donc européenne et mondiale. Donc elle doit être présente en Europe, d'accord, et dans le reste du monde. Et à chaque fois que la France, dans son histoire, a consacré davantage d'attention à l'Union européenne au détriment du reste du monde, et qu'elle a rompu l'équilibre qui doit être permanent dans sa politique, elle l'a payé très cher. Il y a eu des moments où on a su trouver cet équilibre, à l'époque de Napoléon III ou du général de Gaulle. Depuis deux décennies, malheureusement, nous avons une classe politique qui a un tropisme européen ou anglo-saxon qui est trop poussé et qui va donc au détriment des intérêts de la France. Voilà.
Ah oui. Alors parlons de la langue française. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la deuxième langue la plus parlée dans le monde après l'anglais?
C'est la deuxième langue la plus apprise dans le monde, après l'anglais. C'est la seule langue avec l'anglais à avoir une présence significative dans les systèmes éducatifs de l'ensemble ou presque des pays du monde, dans tous les continents. Voilà. L'apprentissage du français, d'ailleurs, dans le monde, augmente considérablement d'année en année. par exemple, en Afrique subsaharienne non francophone. Là, par exemple, selon les chiffres de l'OIF, entre 2013 et 2017, c'est-à-dire entre les deux derniers rapports quadriannuels de l'organisation, il y a eu une hausse de 126% du nombre d'apprenants de français en 4 ans. Ça s'explique tout simplement par le renforcement de la présence du français dans les systèmes éducatifs de ces pays-là, et parfois par l'obligation qui est désormais faite d'apprendre le français dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne non francophone, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Sierra Leone ont rendu depuis quelques années le français obligatoire à l'école, même si la mise en application est progressive, et c'est cette mise en application progressive qui explique cette montée en puissance de l'apprentissage du français. Voilà. Et d'autres, et partout ailleurs dans le monde, grâce à ce dynamisme démographique et économique de l'espace francophone, partie la plus dynamique d'Afrique, la moins endettée, la plus stable d'ailleurs, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, on nous citera toujours 2-3 pays non anglophones qui marchent bien ou 2-3 pays francophones qui ne marchent pas bien pour généraliser. Voilà. Mais globalement, donc, c'est ce dynamisme émergence démographique économique qui donne envie à beaucoup d'autres personnes de par le monde d'apprendre leur français. Voilà. Et donc nous, Français, nous devons accompagner ce phénomène et non pas l'affaiblir.
J'allais vous dire nous devons, mais ce qui est frappant quand on vous écoute, Inès Zouhari, c'est le décalage, je dirais pas abyssal, mais quand même, entre la place qu'occupe la francophonie dans les discussions françaises, quand je dis les discussions, dans les débats, et l'importance que vous venez de souligner.
C'est un espace qui est très important, qui est stratégique pour nous tous, donc pas seulement pour les Français, mais pour tous les peuples francophones du monde. Donc, quand on investit dans le monde francophone, il y a un retour sur investissement qui est d'ailleurs plus important que quand on investit dans des pays non francophones. Voilà, c'est le principe un peu des vases communicants.
Bien sûr.
Un petit peu, c'est ce qui explique, par exemple, que les touristes québécois soient proportionnellement 4 fois plus nombreux que les touristes américains à venir en France à y dépenser. Donc, c'est pareil pour les Africains francophones dont nous parlions tout à l'heure, qui aimeraient bien une France économiquement plus présente, et pas seulement au niveau des grandes entreprises multinationales, et qui regrettent de voir la France se désintéresser, laisser le champ libre à d'autres puissances comme la Chine, et qui d'ailleurs n'ont pas des politiques aussi favorables qu'on le pensait. D'ailleurs, maintenant, les pays africains commencent à s'en rendre compte.
C'est moins qu'on puisse dire.
Aujourd'hui, rapidement, expliquez-nous quels sont les critères, justement, pour être considéré comme un pays francophone. Selon vous, vous dites que, par exemple, le Liban ne fait pas partie de la francophonie. Expliquez-nous pourquoi.
Pour moi, les choses sont simples. Vous avez une définition de bon sens. Un pays francophone, c'est un pays où on peut vivre en français. Un pays ou un territoire. Il peut y avoir des morceaux de pays, des parties de pays. Voilà, donc si on peut y vivre en français, c'est un pays francophone. Si on peut s'épanouir en français, c'est un pays francophone. C'est le cas, donc...
C'est le cas du Liban.
Non, le Liban, justement, on peut y trouver de nombreuses personnes qui parlent...
Mais vous pouvez vivre en français au Liban.
Vous ne serez pas
handicapé si vous ne connaissez pas l'arabe ou l'anglais.
Pour vivre et s'épanouir en français dans un pays, il faudrait peut-être ajouter vivre et s'épanouir en français, il faut un pays où... où le français est présent de manière importante dans l'administration, dans les médias, ou dans les affaires, ou encore au sein des populations.
Et ce n'est pas le cas au Liban actuellement.
Ce n'est pas vraiment le cas. Au Liban, le français n'est pas présent dans l'administration du pays, il n'est pas présent dans les médias ou très marginalement, dans les affaires, il n'est pas présent dans les affaires.
Oui, il n'est pas
et dans la population, vous avez certes 70% à peu près des Libanais qui vont à l'école dite française, donc qui apprennent dans un système bilingue français-arabe qui maîtrise bien le français, mais leur utilisation du français s'arrête là, s'arrête à l'école, en fait. Ce ne sont donc pas 100% des Libanais qui parlent français, mais 70%. Un pays dans lequel il y a beaucoup de personnes qui parlent français, mais ça n'en fait pas pour autant un pays francophone où on peut vraiment vivre et s'épanouir en français.
Ah oui, ce qui est paradoxal, parce qu'effectivement, la France est pratiquement l'un des seuls alliés aujourd'hui, l'indiquiez. Du Liban, c'est ça ?
Tout à fait. La France est le seul allié sérieux et solide et constant du Liban sur la scène internationale, économiquement et géopolitiquement. Voilà, les Libanais ont d'ailleurs bien eu l'occasion de s'apercevoir à maintes reprises qu'ils ne pouvaient pas compter en permanence sur d'autres puissances comme les États-Unis, par exemple.
Et la France en ce moment, ça se discute.
Oui, aussi, effectivement.
Mais comme vous dites, c'est des deux côtés.
Voilà. Oui. En tout cas, la force de notre langue, c'est sa diversité, André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour évoquer les variétés du français parlé dans le monde avec Bernard Cerchi-Ligny, un très grand linguiste. Alors à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Et oui, nous parlons de la belle langue de notre pays. Cette chanson, qui ne la connaît pas, parole de Jacques Prévert, musique de Joseph Cosma, bien sûr. Eh oui, la langue de Molière, la langue de Molière. Mais il y a d'autres langues françaises. Et alors, par exemple, vous savez comment on dit au Congo, quand on parlait d'une eau gazeuse, on dit une eau à ressort. Au Québec, au lieu de dire « Hey, tu racontes des mensonges », on dit « Tu fais rire les poissons ». Et on ne dit pas « On a mal dormi ». Non, non, on dit « On a passé la nuit sur la corde à linge ». C'est extraordinaire, vraiment, cette invention française, Céline, cet extraordinaire génie de tous les gens qui se sont irrigués au fleuve français.
Eh oui, et les mots savoureux de la francophonie, André Bercoff, eh bien, on va en parler avec un grand spécialiste de la langue française qui est professeur émérite de linguistique à Paris 7 et conseiller scientifique du Petit Larousse. Alors, Bernard Cerchilini, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous présidez le conseil scientifique du Dictionnaire des francophones qui sera disponible dès le 16 mars via une application pour smartphone et tablette, pardon. Comment est né...
Voilà, c'est pour un smartphone, c'est pas mal prononcé, c'est anglais. On n'est pas là pour parler. D'ailleurs, comment on dit, pardon?
Un téléphone, tout
un
simplement.
Téléphone. Là,
un téléphone intelligent.
Oui, smartphone.
Alors, dites-nous, Bernard, comment est née l'idée de ce dictionnaire?
C'est la troisième commande publique dans l'histoire de la langue française. La première a été faite par Richelieu, qui voulait un dictionnaire fondant le bon usage, un dictionnaire papier, simple. Il l'a confié à la jeune Académie française. Dans les années 60, le général de Gaulle, qui dotait la France d'une indépendance énergétique et militaire, a voulu un grand dictionnaire public. Il l'a confié au CNRS, qui a préparé un immense dictionnaire papier en 17 volumes, le trésor de la langue française. Et la troisième, c'est l'actuel président de la République, qui, après avoir déclaré devant l'Institut, avec des accents à la glissant, le français s'est au fond émancipé de la France, il est devenu cette langue archipel, cette langue monde, a voulu un dictionnaire rendant compte de cette diversité. Nous avons été quelques-uns proposés au président, non plus un dictionnaire papier, mais un outil numérique. Le numérique permet d'accéder à cette variété et d'en donner l'image. Le dictionnaire des francophones, c'est un outil qui, d'une part, compile tout ce que l'on trouve sur Internet. Donc, ça fait déjà à peu près 500 000 mots, nous en serons bientôt 1 million, et d'autre part, permet de contribuer. Chacun pourra entrer des mots, une définition, un exemple. Tout cela, bien sûr, sera contrôlé par la suite, mais jouons à la carte de l'abondance et de la participation.
Oui, parce que c'est un dictionnaire donc collaboratif, comme on dit, un peu sur le principe de Wikipédia, en quelque sorte.
Eh bien, écoutez, après Richelieu et l'Académie française, après le général de Gaulle et le CNRS, nous sommes maintenant du côté de l'esprit wiki, de la jeunesse. Et M. Zouhari vient de le dire, la francophonie est jeune. Elle doit avoir un outil jeune.
Ah oui, alors elle est jeune et elle est surtout riche de créations verbales, cette francophonie. Alors certaines sont vraiment assez étonnantes, Bernard.
Monsieur Zouhari vient de le dire, il y a une créativité, un dynamisme démographique, économique dans la langue française. Il est lexical aussi. Cette langue s'est implantée partout, elle a poussé, elle a donné de beaux fruits qu'il nous importe de récolter. De même que la France a intérêt à jouer la carte économique, elle doit jouer.
Donc
cette
ce
carte.
Sont les fleurs sauvages de la langue française, pas sauvages ou...
Sauvages, pas forcément, ce n'est pas des belles... Regardez.
Donnez-nous des exemples.
Tout le monde ici note un rendez-vous dans son agenda.
Oui. Bien.
Les Suisses, depuis plus d'un siècle, agendent un rendez-vous. Le désagende, le réagende, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus simple.
Pas mal, agende, oui.
Ah oui.
Et d'autres exemples?
Oui, surtout les variétés, les verbes du premier groupe, surtout.
Moi, je suis un grand ami de la conjugaison du premier groupe. On dit toujours que le français forme des verbes avec n'importe quoi. Le français aussi, un verbe du premier groupe, se pratique aisément. Regardez, le matin, vous beurrez vos tartines. Fait sur beurre. En Afrique, ensuite, vous les confiturez.
Ah oui, c'est pas mal.
Et pourquoi
oui,
pas
vrai, et pourquoi pas.
Et si vous utilisez du Nutella, vous pouvez les...
Nuteller.
Voilà, voilà trois verbes. Le premier, beurré franco-français. Le deuxième, confituré africain. Et le troisième, nous venons de l'inventer.
Le verbe pomader oui. également que j'ai entendu. Pardon le verbe pomader.
Ben pomader, voilà, bien exactement. Sûr. Ah, oui. Et puis ça peut... Vous avez fait des allusions. On peut aussi tout simplement amourer la fille du voisin. Ah, et puis, quand on l'amoure, on finit par l'enceinter.
Ah, c'est joli.
C'est où, ah, ça oui.
Alors, ça, c'est l'Afrique, qui utilise aussi siester pour faire la sieste, gréver pour faire la grève, ainsi de suite. Mais mêmes choses en Suisse, en Belgique. On réciproque des vœux ou des compliments en Afrique. Vous voyez, on peut donc réduire des locutions un peu longues par un verbe du premier groupe. C'est simplement, il faut par rapport à cela ne pas être puriste et considérer que cela enrichit la langue internationale.
Ah oui. Et au Québec, par exemple, on dit peinturer au lieu de peindre.
Et oui, peindre est ambigu chez nous. Ça peut être, vous peignez le mur de votre garage ou vous peignez un tableau qui finira au musée d'Orsay ou au Louvre. Ouais. Les Québécois distinguent, vous peinturez la porte de votre garage et vous peignez un tableau. Le français québécois, en ce domaine, est plus riche. Adoptons cette distinction.
Mais est-ce que certains de ces verbes sont issus du vieux français ou pas?
Mais oui, parce que...
Attends, ça remonte, cette création.
En fait,
c'est les immigrés, oui.
C'est très étrange parce qu'on retrouve des mots anciens. Soit parce qu'ils ont été implantés au Québec dès le XVIe siècle, il y a longtemps, avant la grande coupure classique, soit parce qu'on les réinvente. Et donc, par exemple, cadeauter, africain, faire un cadeau,
bien,
magnifique. Néologisme, pas vraiment. On a quelques attestations de cadeauter au XIXe siècle dans une lettre de Flaubert. Donc, est-ce un retour? Est-ce une réinvention? De toute façon, c'est un enrichissement.
Alors, juste un mot par rapport à ça, mais quand même, je vais jouer le mauvais esprit. Mais au Québec, par exemple, il y a aussi l'irruption de la francophonie. Pourtant, ils sont là, ils se battent. Par exemple, on dit un ami, un copain, c'est un chum. Et quand on dit draguer, enfin moi je dis cruiser, je me cruise. C'est quand même, ouais, ça c'est un peu embêtant là. Enfin,
bah, il ne faut pas être puriste. Toutes les langues empruntent. Nous avons des mots anglais dans notre langue. Je distingue la fin de semaine qui est vendredi soir, samedi matin, du week-end qui est dimanche. Je dois donc utiliser week-end. Les Québécois font de même. Ils ont toute une série de mots anglais, mais croyez-moi, ils traduisent beaucoup. Dans des précédentes fonctions, j'allais au Québec tous les mois en avion et j'avais une carte de voyageur assidu.
Ah, tout le monde dit régulier.
En France. Eh oui, tout le monde dit en France frequent flyer. Eh bien, on dit voyageur assidu. Mais c'est merveilleux.
Si je peux me permettre une petite remarque, les Québécois, dans le langage québécois, divers mots en anglais existent, mais les Québécois ont cessé d'absorber de nouveaux mots en anglais depuis une quarantaine d'années à peu près. Depuis l'affirmation de l'identité québécoise. Oui, voilà. Alors que nous, en France, nous continuons à le faire sans cesse, à tel point qu'aujourd'hui, nous les dépassons, je pense.
Et c'est pour ça que Robert Charlebois, le chanteur, quand tu lui demandais « Mais c'est quoi un Québécois ?», il dit « Le Québécois, c'est un Français amélioré.
» En tout cas, il y a beaucoup de mots qui, dans la francophonie, il y a beaucoup de mots qui portent à quiproquo. Hein.
Ah, alors... Pour commencer avec le Québec, je vous vois sourire, je vois comment vous pensez. André Bercoff, quand vous rencontrez Québécois, demandez-lui si ses gosses vont bien. Qu'est-ce que c'est les gosses pour vous?
Ben, les enfants.
Oui, et je vois M. Zouari qui rit. Alors, les gosses au Québec sont les testicules, monsieur. On a un bel exemple de métonymie. Donc, faisons attention. Beaucoup moins grave pour la confusion. L'accélérateur en Côte d'Ivoire, c'est ce dont nous n'avons pas besoin, l'aphrodisiaque. Et puis un autre mot que j'aime beaucoup, dont on a parlé récemment, parce que une chaîne d'épicerie ouvrant tôt et fermant tard du Québec voulait racheter une grande compagnie de supermarchés en France, c'est le dépanneur. Le dépanneur est un mot de tous les jours au Québec. Le dépanneur, c'est l'épicier qui... ouvre
qui
tôt,
dépanne ferme, tout le monde
qui dépanne tout le monde. C'est un mot de tous les jours. Le dépanneur n'est pas quelqu'un qui va réparer votre voiture. Il va vous dépanner en vous vendant du lait à minuit.
Ah oui. Alors,
et puis le pneu de secours.
Ah, c'est quoi?
Le pneu de secours, c'est une maîtresse que l'on prend en attendant d'en trouver une autre.
Voilà.
Ou le deuxième bureau.
Le deuxième bureau, je vois que vous connaissez bien. Le deuxième bureau, c'est la maîtresse habituelle.
Ou l'amant. Ou l'amant.
Oui, ou l'amant. Mais oui, bien, vous avez raison. Le pneu de secours, ça peut être
ça,
un amant,
la
vous avez raison.
Qui se réveille. Donc, et c'est en québécois, en français, où on dit excusez du pneu.
Alors parlons maintenant des expressions imagées, parce que certaines sont vraiment très très drôles, Bernard Cerchilli, notamment au Québec toujours.
Oui, alors je prends l'exemple du Québec parce qu'il est très riche en expressions, mais tous les pays de la francophonie ont de très belles expressions. Quelques-unes que j'aime beaucoup, doux comme des fesses de nonne. Avec le Québec a été longtemps un pays très catholique. D'ailleurs, c'est grâce au catholicisme qu'il a fait beaucoup d'enfants et qu'il a défendu la langue.
Tout à fait.
Il y a c'est bien.
Comme les fesses de nous allons vérifier. Voilà.
Ça,
c'est
bien.
Vrai comme la bedaine du curé.
Ah oui, et oui, c'est toute la tradition.
Mais qu'est-ce
toute
que ça signifie alors
Et puis un que j'aime infiniment parce qu'il est pour moi une sorte de production surréaliste. Maigre comme un mort en vacances.
Joli. Maigre comme un mort en vacances.
Oui, extraordinaire.
Magnifique.
Magnifique. Magnifique.
Ça, c'est vrai que là, on voit très bien comment la francophonie atteint la poésie. C'est-à-dire, on recrée, on invente, et on invente des choses formidables, quoi. C'est vrai.
Oui, oui. Avec toutes ces locutions, on pourrait faire des poèmes. Regardez,
absolument.
Cirer les airs, qui est une expression camerounaise, se vanter.
Ah, c'est joli. Cirer les airs. Magnifique.
Quand on raconte des bêtises au Québec, tu fais rire les poissons.
Oui, c'est formidable.
C'est extraordinaire.
L'Oulipien que je suis est ravi, on peut écrire des textes complets avec ces expressions-là.
Ah oui. D'ailleurs,
alors l'expression
Raymond Queneau était un grand créateur de mots. Aussi,
bien sûr. Oui.
Et l'expression enlever les araignées, ça veut dire quoi? Ça, c'est au Québec.
Les toiles d'araignée.
Enlever les toiles d'araignée.
C'est faire l'amour avec une dame qui, malheureusement pour elle, n'a pas fait l'amour depuis longtemps. Ce n'est pas très féministe, mais peut-être c'est bien pour les deux qui le pratiquent.
Alors parlons à présent de la féminisation des mots, notamment des noms de métiers, Bernard. Ce processus n'a pas commencé en France.
Pour un historien de la langue, c'est un phénomène étonnant, car c'est le premier phénomène de changement linguistique né ailleurs qu'en France. La féminisation est liée à la Révolution tranquille des années 70, qui a reconquis des droits linguistiques et qui a aussi donné des droits, tous les droits, aux femmes du Québec. Elles ont accédé à toutes les professions, elles ont décidé de féminiser leur profession.
Le langage, oui.
Voilà, d'être une ingénieure comme elles étaient déjà une boulangère.
Ce sont eux, le Québec a commencé.
C'est le Québec. Mmh. C'est le Québec, puis c'est passé en Suisse, en Belgique. Et en France, on a eu à la frontière des douaniers en habit vert avec épée qui ont dit non. Un phénomène de ce type n'arrivera pas en France.
Ouais.
Et il a fallu attendre une trentaine d'années pour que l'instance de prescription officielle, l'Académie française, reconnaisse que la féminisation des noms de métiers est légitime, naturelle, etc. C'est-à-dire, et je termine, c'est rendons hommage à l'Académie française, qui, par ailleurs, pour la première fois, a accepté un changement linguistique provenant de l'extérieur de la France.
Oui.
C'est une date dans l'histoire de notre langue.
Juste un mot, permettez-moi.
Et c'était, il faut préciser, c'était à quelle période ?
60, il a dit, les années 60.
Le 60.
Non, la validation par l'Académie.
Février 2018.
D'accord.
On a dû attendre quelques années.
Ah oui. Permettez-moi de jouer le douanier en l'habit vert. Mais vous savez que c'est tout le problème, d'ailleurs, je poserai la question aussi à Lise Zouhari, de la cancel culture et de la woke aujourd'hui. Par exemple, vous savez, et je croyais que c'était une fausse nouvelle, j'allais dire une fake news, c'est que un universitaire, vous savez, un exposé sur les stéréotypes. Et une étudiante a dit, ne dites plus stéréotype, dites stéréomeuf. Sinon, c'est sexiste. Non, je veux dire, on arrive là, quand même, quelque part. Hein.
Tout mouvement social s'accompagne de sottises, d'extrémistes.
C'est vrai.
Donc, la féminisation est une bonne chose. Pourquoi ? C'est parce qu'on revient au statut ancien. C'est un phénomène tout simple. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les femmes avaient accès à des professions qui se sont vues fermées devant elle. Prenez la première édition du Dictionnaire de l'Académie française, 1694. Ambassadrice, femme chargée d'une ambassade. Parfait. Parce qu'à l'époque, on donnait des ambassades. Saint-Simon parle d'ambassadrice. Ouais. Prenez la deuxième édition, 1718. Ambassadrice, femme d'un ambassadeur. La porte s'était fermée. Et s'installe dès le 18e, le féminisme conjugal, le féminin conjugal. Une présidente, comme dans la Clos, c'est l'épouse du président. Et l'ambassadrice, c'est l'épouse. Donc, c'est bon, tous ces mots sont devenus, ont pris d'autres sens. Et autrice, qui était fréquent au Moyen-Âge et la Renaissance, a disparu car les femmes n'ont plus accès aux professions littéraires. Autrice revient sans aucun problème.
Auteureux aussi, avec un E.
Oui, alors, auteureux. Il faut féminiser. Maintenant, la langue est libre de dire une auteure avec R ou avec E ou autrice. Laissons l'usage bouger. Ne passons pas d'un purisme à un autre.
Et oui, le Québec, on en a beaucoup parlé et on va continuer en tout cas d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités et avec la présidente de la Fédération France-Québec Francophonie qui va nous rejoindre dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver.
Et c'est évidemment, et vous l'avez tous reconnu, Robert Charlebois, le très grand chanteur, qui disait d'ailleurs « Comment voulez-vous vivre dans un pays qui commence par un cul et qui finit par un bec ?» Et voilà, 7 620 000 locuteurs de français. C'est en Québec qu'on retrouve la plus grande concentration de francophones sur le continent américain. Hein, Céline ?
Et oui, et pour parler du Québec, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Rosy, qui est présidente de la Fédération France-Québec Francophonie. Alors, bonjour à vous, Caroline.
Bonjour à vous tous.
Alors, chaque année, votre fédération est très active pendant la semaine de la langue française et de la francophonie. Alors, quelles activités vous proposez à partir de ce dimanche ?
Alors, à partir de ce dimanche, donc, nous allons mettre en avant pas mal de choses dans le cinéma. Découvrir le cinéma québécois. Donc, on aura 4 séances différentes tout au long de la semaine avec des films donc pour adultes et enfants. Donc, on aura une possibilité également de regarder quelques films en famille. Et vous avez aussi, du côté québécois, il y a une chose intéressante qu'ils font aussi, c'est un événement qui se passera à 20h directement en visioconférence sur la langue parlée en Nouvelle-France. D'accord. Quelle langue parlent les habitants ?
Et c'est sur quel site, ça, Caroline Rosy, pour que nos éditeurs puissent y aller ?
Alors, c'est sur le site francequebec.fr.
francequebec.fr, d'accord.
.fr, et on met également l'événement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.
D'accord.
Avec un lien direct pour se connecter et un accès. Sachant que tout est gratuit.
Oui, tout, c'est accessible à tout le monde. Et le 19 et le 20 mars, vous allez proposer donc deux dictées francophones.
Alors, le 19 mars, donc, ce sera directement pour les enfants. Oui. Donc là, c'est pour le scolaire, du primaire au lycée. Et ensuite, pour le samedi 20 mars, ce sera pour les adultes. Donc là, c'est libre aussi.
C'est donc ouvert au monde entier. Enfin, c'est partout, quoi. Ce sera sur les réseaux.
Oui. Ce sera en direct, tout est en virtuel. D'accord. Il faut juste penser au décalage horaire, parce qu'en fonction des créneaux, c'est soit une heure française ou québécoise, ou s'il y a d'autres pays qui veulent y aller, il n'y a pas de souci.
Très bien. Eh bien, écoutez, les auditeurs du Sud Radio, vous branchez sur francequebec.fr. Juste, la dictée adulte sera sur le thème « 10 mois, 10 mots », c'est ça ? C'est 10 mois, moi, M-O-I, et 10 mots, M-O-T-S, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est par rapport au ministère de la Culture de la langue française qui, chaque année, organise différentes thématiques. Là, cette année, le thème, c'est l'air. Donc, il y a 10 mots sur l'air.
Donc, l'air, L-A-I-R, c'est ça.
A-I-R, oui. C'est ça. L'air que l'on respire, l'air qui nous sert à naviguer, à voler.
Vous avez voulu être très écologiste, c'est ça, Caroline Rosy.
Ah, je ne sais pas. Là, c'est, je me suis fiée au ministère de la Culture. D'accord. Alors après, avec les grandes espèces et le Québec, je pense
oui,
qu'il y aura
c'est vrai, espèces. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Caroline Rosy, c'est important. Et surtout, allez-y, auditeurs de Sud Radio.
Et oui, et restez avec nous, Caroline Rosy. Je vous propose tout de suite d'écouter un énorme sujet. On en parle après.
Oui.
C'est vrai que les Français, c'est une catastrophe. Enfin, combien de fois on a vu, moi j'ai vu ça, je me promène des fois, les Français, ils parlent entre eux, puis avec leur accent français dégueulasse en anglais, ils parlent en anglais à leur enfant. « Would you like to know the strawberry ?» C'est dégueulasse, quoi. Ils viennent à Montréal, puis ils apprennent l'anglais à leur enfant. Ils viennent nous angliciser. C'est dingue, ça. Les gars, on est en lutte nationale pour la race française d'Amérique depuis 4 siècles. On n'est pas là pour que vous veniez nous angliciser, bordel de chiasse. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est la race française en Amérique. On résiste depuis 4 siècles, et c'est certainement pas pour se faire baiser la gueule par des sales gauchistes français qui viennent nous casser les couilles en voulant vivre leur rêve bilingue de je ne sais trop quoi.
Alors oui, qui viennent en fait nous casser les gosses, il aurait dû dire. Hein, là, on est d'accord.
Il a dit ça pour que les Français comprennent.
C'est ça. Alors, Ilyès Zouari, c'est intéressant là. C'est-à-dire qu'on sent la résistance du Québec en disant « Vous voyez, les Français, ils viennent avec leurs anglicismes. »
Effectivement, les Québécois ont des véritables leçons à nous donner en matière de résistance. Le général de Gaulle, d'ailleurs, et son entourage, qui s'était rendu en 1940 faire un appel destiné à la population québécoise, avant même, donc ça pour chercher leur soutien, disaient qu'ils allaient au Québec pour chercher des leçons de résistance. Voilà, donc les Québécois sont très résistants pour leur langue française. Et puis c'est ce qui fait d'ailleurs que le français se porte, qu'on le veuille ou non, on en déplaise à ce que certains prétendent, pour des raisons souvent politiques, que le français se porte très bien globalement au Québec. Et je tiens à insister sur ce point, parce que nous entendons souvent des articles ou des choses, donc des personnes dire que le français serait en régression, par exemple à Montréal, au Québec. Je l'ai encore entendu dire récemment, il y a quelques jours, sur une chaîne de télévision d'information, dans laquelle des journalistes fort sympathiques d'ailleurs, je ne remets pas du tout en cause leur bonne foi, mais ils ont été, disons, induits en erreur comme d'autres avant eux, disaient qu'au Québec, à Montréal, qu'il n'y avait plus que 50% à peu près de francophones, laissant donc sous-entendre que les autres 50% seraient anglophones, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc quand on parle des statistiques sur le français au Québec, il faut bien faire attention aux termes et aux critères que nous utilisons. Ceux qui disent que le français recule au Québec utilisent toujours le critère de la langue maternelle. Si nous devions utiliser le même critère en France à Paris, il serait intéressant de voir combien y aurait-il alors de francophones à Paris. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est le critère de Statistique Canada, que l'on appelle le PLOP, le critère de la première langue officielle parlée, c'est-à-dire quelle est la première langue officielle canadienne, français ou anglais, que les étrangers parlent, une fois qu'ils sortent de leur maison. Et là, on s'aperçoit que le Québec est de plus en plus francophone, et ça fait d'ailleurs, que Montréal, par exemple, le pourcentage de francophones a même augmenté de 0,5 point de pourcentage entre les deux derniers recencements, pour atteindre 78,1%.
Bah c'est
d'ailleurs,
bon augure.
Voilà, je précise d'ailleurs que le Québec, le français, était menacé au Québec il y a très longtemps. C'était dans les années 1850, c'est-à-dire dans le premier siècle de la conquête britannique, à tel point que Montréal, entre 1831 et 1865, les deux recensements étaient majoritairement anglophones, et que Québec, la capitale, était à 60% francophone. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, donc Montréal, l'agglomération, c'est 80% presque francophone, et la ville de Québec, la capitale, 98% francophone, ce qui signifie 100%, puisque les 2% qui restent parlent français, forcément, naturellement. Voilà.
Les Québécois ont sauvé leur langue au cours des 30 dernières années. C'est
voilà.
Évident.
Tout à fait. En tout cas, au Québec, parce qu'encore une fois, il faut bien distinguer le Québec du reste du Canada. Le français ailleurs au Canada, c'est autre chose.
Eh bien, je dirais, vive le Québec libre, comme mon illustre prédécesseur.
Voilà. N'oubliez pas qu'on parle aussi français.
En Acadie, du Nouveau-Brunswick, dans quelques localités de l'Ontario voisine. Voilà.
400 000 personnes en Acadie, une université. Entièrement francophone,
fait,
tout ça c'est concret.
Moncton, même deux d'ailleurs,
deux,
Sainte-Anne
tout
également.
Ça est concret et dynamique.
Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Le temps passe très très vite en votre compagnie. Je rappelle que le Dictionnaire des francophones sera en ligne donc dès le 16 mars sur le site dictionnairedesfrancophones.org. En revanche, donc dès à présent, vous pouvez vous rendre, chers auditeurs, sur le site donc de la Fédération France-Québec, c'est francequebec.fr. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Savez-vous vous faire plaisir? Eh bien, réponse dans un instant avec son invité Michel Odoul.